Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission spéciale sur Bac FM à l'occasion de la fête de la science. Je suis Zoé, en classe de seconde au lycée Raoul Folloro. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Vincent Boudon, directeur de la recherche CNRS à Dijon, et également l'un des auteurs du livre « La lumière pour sonder le monde, la spectroscopie et ses applications ».
Bonjour à tous, moi c'est Mathilde et je suis également en classe de seconde. Alors Monsieur Boudon, bonjour.
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 Nous allons commencer avec des questions sur la fête de la science. Donc pour commencer, pourriez-vous nous expliquer quel est pour vous l'objectif principal pour la fête de la science ?
Alors l'objectif principal, c'est de faire découvrir la science, parce que finalement on parle de science, mais le public ne connaît pas forcément ce que c'est, ni ce que font les chercheurs. Et donc c'est d'aller vers le public, jeune ou moins jeune, pour présenter la science, ses résultats, ce qu'on fait, dans nos métiers aussi.
Pourquoi pensez-vous que cet événement est particulièrement important pour les lycéens ?
Je pense que effectivement c'est important pour les plus jeunes, donc les lycéens, ou même avant, de découvrir le monde de la science. On est dans une période, on en parlera peut-être, un petit peu compliquée, où la parole scientifique, la parole des experts est contestée, où on raconte des fois un peu n'importe quoi, des fake news, etc. Et très tôt, rencontrer les scientifiques, voir ce que c'est que la science, c'est important. Et le lycée, c'est le bon moment.
Alors, avec ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous avez eu des souvenirs marquants de rencontres avec des lycéens, des étudiants, lors de précédentes éditions à la fête de la science ?
Alors, j'aurais peut-être pas quelque chose en particulier, mais il y en a plein, et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup, beaucoup d'élèves tout le temps, et c'est toujours passionnant, parce qu'on a souvent des questions vraiment super intéressantes. Les jeunes osent plus, souvent, que les adultes, qui sont des fois un petit peu bridés, qui osent pas, qui ont peur d'être bêtes et de poser des questions. Donc, je rebondirai plus sur un conseil à tous les jeunes qui nous écoutent. Osez aller rencontrer les scientifiques et osez poser des questions, parce qu'on passe toujours des super moments.
Comment pour vous, vous encourageriez les jeunes à s'intéresser aux sciences et à envisager une carrière dans le domaine ?
Alors effectivement, je pense que c'est important déjà. On a besoin de scientifiques aujourd'hui. On est dans un monde qui dépend énormément des sciences et des technologies. Donc on a besoin de gens dans ces domaines. Et comme vous êtes au lycée, il ne faut pas avoir peur d'envisager une carrière dans les sciences ou les technologies, parce qu'il y a énormément de métiers possibles, d'ingénieur à chercheur, que ce soit dans le privé, dans le public. Il y a plein de carrières possibles, et c'est passionnant parce que c'est tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui et de demain, et toutes les technologies, toutes les découvertes qu'on va faire. Donc il y a énormément à faire. Je suis scientifique, forcément je suis pour, mais je dis que c'est vraiment un domaine passionnant. Donc, foncez.
Donc, pour rebondir sur les études, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chercheur dans le domaine de la spectroscopie moléculaire ?
Alors, je crois que, comme beaucoup, quand j'étais ado, dès le collège, puis le lycée, j'étais passionné par tout ce qui était astronomie, astrophysique. Déjà, on est dans une période, mais déjà à mon époque, où il y avait plein de découvertes, de choses passionnantes, donc je voulais aller là-dedans. C'est pas forcément évident, parce que des gens qui travaillent vraiment dans l'astronomie astrophysique, il n'y en a pas tant que ça, il n'y a pas tant de postes en vrai. Mais du coup, j'ai entamé des études de sciences, puis je suis spécialisé en physique. Et puis, quand je suis arrivé au niveau master et qu'on a commencé à proposer des stages, j'aurais pu tenter d'aller vers l'astrophysique, il aurait fallu que je bouge, c'était un petit peu aléatoire, pas forcément évident. On m'a proposé quelque chose qui était justement dans ce domaine optique spectroscopie. J'ai essayé, puis ça m'a plu, du coup j'ai continué. Voilà.
D'accord. Du coup, pourriez-vous nous expliquer simplement en quoi consiste votre métier et l'impact qu'il peut avoir sur les recherches actuelles dans le domaine de l'astrophysique ?
Donc moi, je précise d'ailleurs d'un point de vue plus formel, je suis chercheur employé par le CNRS, donc je suis directeur de recherche au CNRS, et donc je suis effectivement dans le domaine de la spectroscopie, je suis théoricien, ça m'arrive de toucher un petit peu aux expériences, mais je fais des calculs sur la façon dont les molécules vont absorber de la lumière, surtout infrarouge, ce qui permet en fait de détecter ces molécules à distance en analysant la lumière. C'est ça l'idée. Et ça, ça va être très intéressant parce que ça permet de détecter des molécules dans l'atmosphère de la Terre. On pense à des polluants, par exemple, ou alors carrément dans le cosmos, les planètes, les étoiles, les galaxies, le milieu interstellaire, où on ne peut pas aller, mais à distance, on peut connaître sa composition. Mais en amont de tout ça, il faut plein de calculs qui sont ceux que je fais.
D'accord, merci. Ensuite, dans un monde où de nombreux phénomènes scientifiques sont remis en cause, comment restez-vous motivé dans vos recherches ?
Oui, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, les fake news, les vérités alternatives, les choses comme ça se répandent à toute vitesse. Alors ça pourrait être décourageant, effectivement, mais pour l'instant ça reste motivant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à faire. Il faut que nous, les scientifiques, on aille vers le public, vers les plus jeunes, etc., pour expliquer la science à tout le monde et montrer tout ce qu'on peut faire. Donc il y a de quoi faire, et puis il y a plein de manifestations comme celle-ci, la fête de la science, qui permettent de le faire.
Quel défi rencontrez-vous en tant que chercheur aujourd'hui, et comment pensez-vous qu'il pourrait évoluer dans le futur ?
Alors les défis, il y en a plein, donc il y a des défis scientifiques, mais ça c'est notre problème, on doit résoudre des problèmes et c'est ce qui nous motive. Il y a évidemment toujours la question des sous un peu, hein. On doit chercher, en tant que chercheur on doit aussi chercher des sous, faire des demandes de financement, etc. Il y a 2 jours j'étais à Bruxelles parce qu'on est sur un projet européen, de demander des sous justement pour la recherche sur les exoplanètes, donc voilà. Et puis, le défi, c'est celui qu'on vient aussi d'aborder juste avant, c'est le défi de diffuser la science vers le public et de porter la parole scientifique. Et ça, il faut vraiment le faire.
Selon vous, quel est l'impact de la recherche scientifique sur notre société actuelle ?
Je dirais qu'il est absolument essentiel et fondamental. Oui. J'aime bien toujours citer un astrophysicien qui était Carl Sagan, qui est un grand vulgarisateur, qui disait toujours... On vit dans un monde qui est entièrement dépendant des sciences et des technologies et dans lequel presque personne n'y comprend rien. Et ça, c'est la recette d'un désastre. Et je pense que c'est vrai, il faut absolument, on y revient toujours, diffuser la science.
Maintenant, on va vous poser quelques questions sur les exoplanètes.
Oui.
Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la thématique de votre conférence, les exoplanètes. Pour commencer, nous avons étudié en cours le phénomène de spectroscopie au niveau des étoiles.
Alors, pourriez-vous expliquer si la spectroscopie est utilisée pour détecter les exoplanètes et ce qu'elle révèle sur les planètes lointaines ?
Oui, exactement, à deux titres. Alors, peut-être un tout petit mot, hein, parce que le mot spectroscopie est pas forcément connu. C'est le fait d'analyser la lumière en fonction de sa couleur, ce qu'on va appeler la longueur d'onde. Et suivant ces couleurs, suivant ces longueurs d'onde, le milieu que traverse la lumière peut absorber ou émettre d'ailleurs de la lumière à certaines longueurs d'onde particulières. Ça veut dire que le milieu que traverse la lumière va laisser une empreinte, comme une empreinte digitale dans la lumière. Et en l'analysant, on peut savoir du coup de quoi est fait ce milieu, mais aussi tout un tas de phénomènes physiques qui se passent sur le passage de la lumière. Alors, il y a une première chose, c'est que c'est ce qui a permis en 1995 de trouver les premières exoplanètes, c'est que lorsqu'une planète tourne autour d'une étoile, on ne va pas forcément la voir, la planète, parce qu'elle est très très loin, elle est tout près de son étoile, donc elle est un peu noyée dedans, mais elle va influencer la lumière de l'étoile. Elle va faire osciller des choses dans le fameux spectre de l'étoile. Et c'est ça qu'on va détecter, donc ça va nous indiquer la présence de la planète. Et en plus de ça, aujourd'hui, on fait un pas supplémentaire. Certaines planètes peuvent passer devant leur étoile, et donc il y a une partie de la lumière de l'étoile qui est interceptée par la planète et qui va laisser une empreinte, une signature dans cette lumière, ce qui va nous permettre de trouver la composition de la planète en question.
Quels outils et technologies sont essentiels dans la recherche d'exoplanètes, et est-ce que l'intelligence artificielle pourra vous être utile dans ce domaine dans un avenir proche ?
Oui, alors on va déjà commencer par les outils plus techniques, expérimentaux. Déjà aujourd'hui, c'est les grands télescopes, et on en construit des de plus en plus grands. On est en train de faire au Chili actuellement un télescope qui va faire 39 mètres de diamètre, donc c'est gigantesque. Et il sera beaucoup dédié aux exoplanètes. Il y a les télescopes spatiaux aussi. On parle du James Webb, dont je reparlerai dans la conférence, qui a, quand il a été conçu, on ne parlait pas encore d'exoplanètes. Et aujourd'hui, il passe un tiers du temps sur les exoplanètes. Donc ça, c'est essentiel. Alors, les télescopes et tout ce qui va autour, les instruments qui vont avec, les caméras, les spectromètres, justement, pour faire des spectres, etc. Et puis, il est bien évident que tout ça, ça fournit des données, beaucoup, beaucoup de données, et derrière, il faut des gens, mais il faut aussi de l'informatique qui va permettre d'analyser tout ça. Et c'est vrai que la révolution actuelle de l'IA, de l'intelligence artificielle, joue déjà un rôle et va jouer un rôle énorme là-dedans, parce qu'il y a tellement de données à analyser que ça va aider énormément à extraire les données utiles, à modéliser aussi tout ça. Donc l'IA, oui, elle a de l'avenir. C'est pas que ChatGPT pour poser des questions sur une recette de cuisine, mais ça va aussi permettre énormément de choses en science.
D'accord, merci. Donc, d'après vous, quelles sont les découvertes les plus récentes concernant les exoplanètes qui, vous ont le plus impressionné ?
Alors déjà, ce qui m'a impressionné, c'est la rapidité de ce domaine. Alors vous êtes jeune, donc si je vous parle de 1995, c'est déjà vieux. Mais c'est pas vieux, c'est la première détection d'exoplanètes. Aujourd'hui, on est en 2025, c'est 30 ans, et ça, on en est à plus de 6000 exoplanètes connues. Déjà, ça, c'est énorme. Alors qu'avant, on ne savait pas les détecter. Et puis, ce qui m'impressionne ensuite, c'est deux choses. C'est que très rapidement, on a trouvé des méthodes de spectroscopie pour analyser leur composition, ce qui n'était pas gagné dès le départ. Donc, on est capable aujourd'hui de dire que dans l'atmosphère de telle planète, à, je ne sais pas, 200, 300 années-lumière, il y a de l'eau, il y a du gaz carbonique, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est génial. Et puis aussi, il y a quelque chose qui va avec, c'est qu'on est capable avec certains télescopes d'observer des planètes en train de se former autour d'étoiles. On a des nuages de gaz et dedans on voit des planètes apparaître et se former. Et ça, c'est tout à fait incroyable.
Comment les exoplanètes pourraient-elles nous aider à comprendre l'origine de la vie dans l'univers selon vous ?
Eh bien, le grand problème en science, c'est que si on étudie quelque chose mais qu'on n'a qu'un exemplaire, c'est compliqué. On aime bien en avoir plein pour comparer et comprendre les mécanismes et ce qui se passe. La vie, on n'en connaît qu'une. La vie sur Terre, alors elle est très diverse, il y a plein de choses différentes, mais elle est basée toujours sur la même chose, l'ADN, etc. Donc on connaît bien. On aimerait bien, alors on n'en est pas là, hein. Je n'ai pas dit qu'on va avoir des extraterrestres, mais découvrir même sous forme bactérienne ou autre de la vie ailleurs, savoir que la vie est née ailleurs, ça nous ferait d'autres exemples et on comprendrait beaucoup mieux le mécanisme qui mène à l'apparition de la vie. Que pour l'instant, on ne comprend pas trop bien, mais on est sur ce que mes amis archéologues appelleraient un unicum, c'est-à-dire un cas unique, et ça ne suffit pas. Donc, c'est ça qu'on espère. Et puis, en amont de ça, il y a aussi, je parlais de formation de systèmes planétaires. Jusqu'à présent, on n'avait que le système solaire, puis on ne l'a pas vu se former lui-même. Là, en voyant d'autres systèmes se former, on va comprendre comment se forment les planètes, et donc comment on pourrait aboutir à des planètes habitables et peut-être habitées.
Et pensez-vous qu'il existe des exoplanètes similaires à la Terre, et comment pourrions-nous les identifier ?
Alors, oui. Je pense, parce que il y en a tellement, en fait. On imagine que dans la galaxie, finalement, chaque étoile a plusieurs planètes. Ça fait des centaines de milliards d'étoiles rien que dans la Voie lactée. Donc, statistiquement, il y en a forcément qui ressemblent à la Terre. Alors, comment on va le détecter ? Et ça va être justement la spectroscopie. Ça va être essayer d'analyser à distance leur atmosphère, voir ce qu'il y a dedans. On sait par exemple que la vie sur Terre a profondément modifié l'atmosphère de la Terre. Je ne parle pas encore de pollution, mais simplement le vivant fait qu'il y a de l'oxygène, du dioxygène dans l'atmosphère terrestre. Parce que s'il n'y avait pas de vivant, le dioxygène, il disparaît très vite parce qu'il réagit, il oxyde des choses et il n'y en a plus. Donc ça veut dire qu'il est renouvelé, c'est la végétation, c'est le plancton, etc. Et donc si on trouvait de l'oxygène dans une planète lointaine, on pourrait se dire, là il y a un bon indice qu'il pourrait y avoir de la vie. Alors, ça peut être indirect parce que c'est pas forcément si simple à détecter, mais quand on a de l'oxygène, donc du dioxygène, comme on vous explique bien en chimie, on peut avoir aussi ce qu'on appelle du trioxygène, ce qu'on appelle plus communément de l'ozone. et l'ozone est très facile à détecter.
Avant de conclure, nous aimerions aborder un sujet important concernant le manque d'appétence des filles pour les études scientifiques. Selon vous, pourquoi y a-t-il un manque de filles dans les filières scientifiques et dans le domaine de la recherche ?
Alors ça, c'est, je vous remercie de la question, c'est une très bonne question qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur avec plein de collègues. C'est vrai que le monde de la recherche, et en particulier ce qui est du côté de la physique, est très très masculin. C'est pas une bonne chose. On a besoin de femmes dans les sciences. Le monde scientifique doit refléter la société, donc il y a moitié homme, moitié femme, on devrait être pareil. C'est pas simple, c'est une question qui est souvent discutée. Il y a des biais, des choses qui font que on a dans la tête le fait que la physique, c'est un peu plus pour les gars, etc. Ce qui est totalement faux. Les filles réussissent très bien. Donc, celles qui nous écoutent, on peut leur dire, n'ayez pas peur. Allez-y, si ça vous plaît, allez-y. C'est pas un truc de mec. C'est vraiment... tout le monde peut réussir. Il n'y a aucune raison physique ou autre que les filles ne réussissent pas en sciences. Donc, au départ, des fois, c'est un petit peu difficile parce que la société... n'a pas cette habitude-là. Et puis quand on va dans un milieu où actuellement il y a surtout des hommes, c'est pas facile de s'y insérer. Mais il faut, parce que sinon on ne changera jamais les choses. Et voilà, il n'y a aucune raison particulière. Il faut encourager les filles à faire des sciences.
Parce que qu'est-ce que vous pensez que les filles pourront apporter de plus à tout ça ?
Je pense que tout simplement... La science, le monde scientifique doit refléter la société et on est tous différents, on a des idées, des approches différentes et n'avoir qu'une moitié de la société avec son approche à elle qui fait des sciences, je pense qu'il manque forcément quelque chose. Il va manquer des idées, il va manquer des approches qui sont des sensibilités qui sont différentes, et ça va faire quelque chose de très biaisé.
Que pensez-vous que les écoles et les universités pourraient faire pour encourager davantage de jeunes filles à poursuivre des carrières scientifiques ?
Eh ben, il faut. C'est assez simple, il faut vraiment leur dire que il n'y a pas de problème pour les filles pour faire des sciences, il faut en faire. Et puis comme ce qu'on va dire plus généralement à tous les élèves, les sciences, il ne faut pas que ça fasse peur. Alors évidemment, c'est plus technique parfois, mais en même temps, dans les sciences, il y a énormément de métiers possibles, énormément d'approches, depuis les sciences naturelles jusqu'aux sciences dur entre guillemets, physique, chimie, les maths aussi qui sont importantes, parce qu'on peut faire des maths pour les maths, puis les maths servent à tout aussi. Bon, il y a aussi les sciences humaines que je néglige pas, mais là il y a beaucoup plus de filles, donc c'est plus simple. Voilà, il faut les encourager, il faut essayer de lever tous les freins psychologiques, tous les verrous, tous les plafonds de verre qui font que peut-être les filles elles-mêmes des fois osent pas, mais il faut oser.
Et avec ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous avez des exemples de programmes ou d'initiatives qui ont réussi à promouvoir la participation des filles dans les sciences ?
Alors, je vais dire pas encore vraiment, parce que finalement, comme je disais, le monde de la physique, entre autres, reste très masculin. Mais il faut insister, il faut continuer. Et les manifestations, déjà au niveau simple, grand public, fête de la science, mais il y a plein de choses. À Dijon, on a organisé la nuit des chercheurs, on a plein d'occasions de rencontrer les gens. Il y a les stages aussi, les stages d'élèves. Vous avez sûrement fait un stage en troisième. Maintenant, il y a quelque chose que moi je trouve très bien, qui est le stage de seconde à la fin juin, qui dure 2 semaines, qui a date fixe, donc qui est particulièrement utile pour organiser des choses. Donc nous, à l'Université Bourgogne-Europe à Dijon, dans mon laboratoire, on organise vraiment le stage de seconde de 2 semaines. Donc n'hésitez pas à postuler. On fait vraiment une sorte de colloque scientifique de 2 semaines avec des visites de labo, des rencontres, des ateliers, etc. Et ça, je pense que ça peut aider pas mal. Et en particulier les filles, venez faire chez nous un stage de seconde. Je fais un peu de pub, mais voilà.
Eh bien, nous vous remercions, Monsieur Boudon, pour ces échanges passionnants. Nous sommes impatients de découvrir votre conférence et d'en apprendre davantage sur les exoplanètes. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur BAC FM. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci à vous deux.
Merci.